Ce podcast est conçu pour être écouté sur Spotify pour entendre les chansons entre les blocs d'animation. Mais n'ayez crainte, vous pouvez aussi trouver les playlists complètes des chansons gratuitement sur notre site web leslutinsdelenfer.com ou sur nos différents réseaux sociaux. Bonne mission!
Incroyable! Cette semaine, les lutins vous spoilent Spider-Man! Découvrez le projet bricolage du groupe Eternal Tears of Sorrow! Rammstein planifie un show de la mi-temps pour l'Euro et les parents de Bruce Wayne meurent! Cette semaine, aux lutins de l'enfer!
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey, salutations à toutes et à tous. Bienvenue à ce tout nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O en compagnie des joyeux Lutins D et Lutin K. Comment allez-vous?
Très bien.
Joyeux.
Vous êtes joyeux pour vrai?
Ah oui. Oh oui. Pas parce que là, il y a du verglas que je serais pas joyeux.
Hey, moi, le verglas, ça me rend tellement joyeux. J'ai des parts d'une compagnie de plâtre. Fait que mes actions montent quand il y a du verglas. Fait que je suis super heureux.
De plâtre?
Oui.
Des plâtres pour les humains, pas du plâtre pour les murs, là.
Ben, plâtre pour les murs aussi, mais tu sais, là, ça se vend plus pour les humains.
Ouais, j'avoue. Vous avez pas de syndrome post-traumatique là, après la terrible crise du verglas?
Oui, ben oui, moi j'ai eu un traumatisme durant le verglas. Je peux le compter si ça vous intéresse. Là. Ça a rapport avec un pot de chambre et un orange.
Ouais, c'est moi. Moi, je connais la bonne vieille légende, mais nos auditeurs ne la connaissent pas. Donc.
Non, ben chez mes parents, on avait un poêle à bois, fait que on héberge les deux grands-mères, ma tante, mon cousin, ben du bon, tu sais, puis on est tous couchés dans le sous-sol parce que c'est là qu'il fait le plus chaud. Fait que on demande à tout le monde, bon, allez-vous aux toilettes en haut parce qu'il n'y avait pas de toilettes en bas, mais en haut, il faisait fret, le kit. Fait que là, bon, tout le monde va aux toilettes, là, c'est comme là, grand-mère, t'as besoin d'aller aux toilettes? Non, t'es sûr? Non, pas besoin. On se couche, on ferme les lumières, ça prend 30 secondes, t'entends pisser d'un pot de chambre. Là, je fais comme, non, ça va bien. Moi, le lendemain matin, je me lève, pense pas à ça, hein. Fait que, pogne mon orange, je commence à ouvrir mon orange, tu sais, je suis comme la table qui est dans le milieu. D'où ce que tout le monde est, tu sais. Fait que là, ma grand-mère, elle se réveille, elle pogne le pot de chambre, met ça sur la table, drette en avant de moi, qui est en train de manger mon orange. Fait que, ouais. Fait que, j'avais une blonde à cette époque-là, j'ai arrêté d'habiter chez mes parents. J'allais rester une couple de jours chez ma blonde, fait comme là, elle a besoin d'un petit peu plus d'intimité, s'il vous plaît. Mais tu sais, il faut comprendre cette génération-là, elle, c'est normal, là. Quand elle était kid, il y avait juste ça, fait que, tu sais. Mais c'est ça, ça m'a. Mon orange était comme sûr, puis j'aimais pas ça.
Autre temps et autre humeur.
Ouais.
Ouais.
Fait que je sais pas si vous autres vous êtes traumatisés, mais.
C'est bizarre, le verglas, c'était l'inverse de la crise de la pandémie. La pandémie, tout le monde était chez eux, tranquille. Là, le verglas, il fallait tout être ensemble dans une petite pièce chauffée le plus possible.
Mm-hmm.
Ouais, en effet. À des beaux souvenirs.
Pas tant.
Non, c'était correct de mon bord. J'ai pas eu de traumatisme, là. Pourtant, il y aurait pu, mais non. Non, ça en est bien sorti.
Le potentiel était là.
Ah oh, ouais! Le cocktail pour. Mais bon, donc. Bon, un lapin déchaîné, moi, dans mon salon ce soir qui est heureux d'exister.
Moi, j'imagine trop le sketch du chat dans le phylactère qu'on a là. Ton lapin est en train de détruire ton appart.
Non, c'est trop petit pour détruire un appart. Le chat de Flacteur Cola fait quand même au moins 6 pieds 1, là, c'est quand même un grand minou.
Quand tu dis le nom du lapin, est-ce qu'il reconnaît son nom? On se demandait ça tantôt.
Ben, 70% du temps. Mais tu sais, il réagit et tout quand tu renifles ou des affaires de même, là. Fait que tu sais, on n'est pas trop sûr si c'est de son nom que ça réagit ou quoi, là.
Ça réagit à un son.
Ouais, ah, tu vois, elle est heureuse, elle vient de remonter sur le divan. Ouais, ça m'amuse dans le fond. Elle joue avec Annie, dans le fond. Elle est sur le tapis, puis là, Annie, il réussit à faire de course sur le divan pour redescendre après. Mais bon, finalement, non, ça y est, le lapin se demande ce qui se passe dans sa vie et fixe le néant. Tout bon lapin, sa qualité fixe le néant.
Il va falloir que tu mettes une caméra web 24 heures sur 24 pour qu'on puisse suivre le lapin et ses palpitantes aventures.
Ah, oh, c'est pas si palpitant que ça, là, quand même.
Je suis sûr que Martin McGuire réussirait à rendre ça palpitant.
Ah, c'est clair. Mais là, il n'a pas eu besoin d'essayer de rendre ça palpitant pour la dernière game des Glorieux où qu'on a démoli Toronto 5 à 2.
Tabarouette, est-ce qu'on a atteint le plateau des 10 victoires?
On est rendu à 11.
Oh, tabarouette, ça sent la coupe.
Je crois qu'on a enfin un marqueur de 10 buts. Ouais, les deux digits. Ah, t'es allé chercher en plus le Hamburglar pour nous sauver, Andrew Hammond. Petit cours d'histoire rapide, ce gars-là, il a connu 23 grosses games dans toute sa carrière qui s'étire sur 20 ans. Fait qu'on est allé le chercher. Il était au balatage dans la Ligue américaine, là.
23 grosses games, dont probablement 21 contre le Canadien.
Ben, un bon nombre, il était pour le sénateur d'Ottawa, donc...
Ouais, c'est ça.
Puis Martin Saint-Louis qui a enfin réveillé notre brave Cole Caulfield.
Ça prenait ça. Un petit offensif pour réveiller le petit offensif.
Et voilà. Ben, tu sais, dans le fond, à Montréal, la nouvelle direction a décidé de miser sur le talent et non sur les messieurs. Bon, ça fera pas de cachette avant Montréal, ça restait des messieurs. C'est plus important que c'est bon en veston-cravate qu'avec son saut de hockey sur le dos. Bon, sans la rondelle, tu sais.
C'est important. On a une grosse émission pour nos auditeurs ce soir. Ben, ou ce matin, ou cet avant-midi.
En ce 1er mars, nuit, peut-être.
Pendant votre accouchement, pour relaxer.
Ça l'aide.
Bon, les lutins d'enfer, c'est partout. D'ailleurs, il y a une compagnie de spa sauna qui nous a approchés. Avoir nos trames, nous avoir en trame de fond là, dans leur lieu de détente. On vous tient au courant.
Piscine et spa, c'est pas grave. Aïe, aïe.
Qui commence?
C'est toi,
c'est
pense.
Toi avec ton succulent mix.
Ben, je me suis rappelé notre épisode qu'on a fait du lutin le matin, là. Je me rappelle plus trop du titre, mais notre spécial Power Metal et Violence. J'ai essayé de mettre deux groupes violents avec entrecoupés d'un groupe de Power Metal dont on a déjà eu l'occasion de planter quelques fois. Mais c'est Hammerfall. Ils viennent de sortir deux singles, dont le très puissant Hammer of Dawn. C'est ça, c'est rigolo. On va dire, il y a pire comme Power Metal là, dans le fait inécoutable. Ils ont fait pire que ça. Ça, c'est catchy, c'est le fun, c'est random quand t'es pas là, là, mettons.
C'était pas méchant.
Une tonne à mettre quand t'es pas là.
Non, ça, c'était pas méchant, mais j'ai lu un peu le chanteur Joaquin Cans, il avait fait un projet solo. Parce que, bon, puis il était pas signé sur Nuclear Blast, parce que Nuclear Blast, ils ont dit, garde déjà contenté dans Hammerfall, tes affaires plates tout seul, va-t'en t'en occuper ailleurs. Il est allé, puis son projet, il est mort. C'est split up, il est tout seul, puis c'est split up. Donc, bravo, Joaquin. Puis j'ai appris que finalement.
C'est auto-split.
Ouais, ben c'est ça, il a auto-abandonné le groupe. Ben, à fond, son groupe, son projet. Et en plus, c'est lui qui s'était mis à remplacer Michael Stan. Qui était le chanteur d'Hammerfall dans les débuts, mais on s'entend, Michael Stan n'avait pas mal mieux à faire que de chanter d'Hammerfall. C'est vu qu'il ne se présentait pas au show, Kans a rentré et il est resté depuis toujours. Dans le fond, il y a encore, en parenthèse, deux membres originaux là, dans le groupe. C'est Oscar Dronjak, un guitariste 6 pieds 3, 38 livres avec un armure sur le dos. Fait que, et Joaquin Kans et ses longs cheveux soyeux. Fait que. Bref, Summerfall. Puis on va attendre avant des fames. On a parlé souvent des fames. Nouveau single, je trouve qu'il est un peu plus black que ce qui nous avait habitués, même s'il y a toujours des influences black dans des fames. Et même avec la fin, avec le clavier, tout, sans dire, ça me rappelle les grands, les groupes d'extrême symphonique. Il y a un petit quelque chose là-dedans quand même.
Ouais, c'était pas mal bon.
Ouais. J'aimais mieux des fames qu'Hammerfall. C'est un bloc, on appelle ça un club sandwich avec du poulet pressé, tu sais. Deux bons pains, mais il y a du poulet pressé dans le milieu.
T'inquiète, mais à le fond, vous pouvez profiter d'Hammerfall pour aller lâcher une pisse ou aller débarquer de votre char pour l'autre dépanneur, peu importe. Mais Defame au lutin
de l'enfer.
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
Et nous venons d'entendre Immolation, un groupe de vieux routiers qui ont sorti un album là, vraiment pas longtemps, je veux pas la date exacte, mais c'est février. Le groupe était formé en 88, c'est leur 11e album tout de même. C'est le premier album qu'ils font depuis 2017, ça qui a pris un petit break, mais ils ont quand même un line-up relativement stable. Ils ont deux gars qui sont là depuis le début, le légendaire Russ Dolan et le tout aussi légendaire Robert Vigna, qui font git, vocal et bass. Puis les deux autres, ben, c'est des gars qui n'ont pas fait grand chose d'autre dans leur vie à part débarquer dans ce groupe-là vers la fin. C'est un album, un groupe qui a tout le temps été bien coté. Dernier album est présentement sur le site de Archive Metal, Metal Archives, est numéro 1 de l'année. Mais ce n'est pas mon numéro 1.
Ah non, mais je m'en allais dire, c'est ton numéro, j'aurais été surpris.
C'est clairement Hammerfall.
Non. Non, je trouvais que ça faisait bien dans le fond. Tu sais, Hammerfall qui vient mettre un petit peu de joie après des fins, puis Immolation qui vient brûler Hammerfall. On passe à un autre appel.
Hey, Immolation est numéro 1 sur Metal Storm aussi en ce moment.
Ah, c'est que. Un groupe qui. Un album qui était attendu, visiblement. Vu que je connais pas Immolation du tout. Non, c'est la première fois que j'écoute un album d'Immolation. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas de titre comparatif.
Oui, à écouter.
Moi, j'ai décidé de vous faire un petit bloc. Japonais, ben en fait, j'avais un beau bloc de Black Crass. Puis là, je me suis dit, bah, je vais donner un break à Carl cette semaine. Je vais mettre des petites japonaises à la place.
Mm-hmm. C'est plus propre.
Mm. Puis je riais de moi quand j'ai mis ce bloc-là sur notre feuille commune. Parce que je me posais la question, je sais comment, dans quel ordre je mets ça. Là, je trouvais que ça fitait pas. Puis là, je changeais. Changer une tonne de place, puis ça m'a vraiment gossé. Puis quand j'ai mis le bloc, j'ai vu le bloc à quart, j'ai fait, mais je m'en fais, mais tellement pour rien. j'étais crampé, j'étais le calice que je perds du temps.
Ah, mais si toi, t'aimes ça faire ça de même, c'est correct. Je veux dire,
oui, moi, oui, c'est, mais tu sais, j'aime que je les cartes. Du temps, je sais que voyons, j'aurais pu le mettre dans n'importe quel ordre, ça aurait été cool pareil. Fait que bref, je suis allé m'amuser au Japon. On va avoir un band qui n'est pas du Metal Idol, mais on va commencer avec deux Metal Idol. Là. Sauvez-vous pas tout de suite. J'ai mis Passcode, la pièce Spark in Ignition de l'album Strive. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'aime bien le mélange électronique et métal. Fait que genre de mélange de trance et puis de métal. Fait que ça, cette band-là, c'est des filles qui chantent qui ont absolument aucun autotune sur leur voix. En fait,
je pensais dire talent.
Tu sais, ils chantent vraiment comme ça. C'est du talent. Puis il y en a une fâchée qui crie aussi dans l'eau. Puis sinon, Broken by the Scream, ça et tout, il y a juste des filles là-dedans. Il y en a une, je suis pas sûr. La grosse voix grâle très très bas. Là. Écoute, j'ai vu des filles faire ça, fait que c'est possible. Mais c'est ça, c'est bizarre. L'album Noisy Night Fever. Fait que ça, il y a deux petites chanteuses qui chantent sur le clean, une qui crie, puis une qui bugle. Fait que, comment vous avez trouvé ça?
Moi, le premier band, je pense qu'il y avait un vidéoclip de ça, même, chez toi.
Ouais, j'ai un vidéoclip, mais je me demande si j'ai-tu mis la pièce du vidéoclip ou pas, je me souviens pas.
Mais tu sais, avec les chanteuses de même, j'avais connu, mais moi, je trouve que c'est pas tout ça. J'aime mieux les deux autres bands, dans le fond, qui a suivi. Pascot, puis le troisième band, c'est lui que j'ai préféré même. Là. Mm-hmm. Pour Pascot, je trouve qu'il manque toujours un petit quelque chose. Peu importe les tunes, c'est bien, mais hey, il manque un petit quelque chose pour que la tune elle justifie son temps.
Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai bien aimé les albums. C'est des petits albums légers. Je faisais du ménage, puis j'avais envie de me dandiner en même temps. Fait que j'écoutais ça.
Tu sais que Joaquin Cans, il a travaillé très fort pour que... il a fait Hammerfall puis son projet solo là, pour se donner double chance de... On fait notre ménage et on se dandine avec Joaquin Cans.
Ah, puis finalement, j'ai choisi des petits japonais.
Bon choix, bon choix.
Fait qu'on va écouter ça. Au lutin.
Enfin.
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
Ah, j'ai plein de bonheur. On vient d'entendre Yusei Teikoku, qui vient du Japon. Hein. C'est un bloc japonais, fait que ça vient tout du Japon. Ça, c'est tiré de l'album Pax Vassania. La pièce Astral Dogma, il y a un vidéoclip aussi pour cette pièce-là. Moi, j'ai vraiment aimé l'album. Là. On n'est plus dans le idol metal. Là. On est dans c'est un plus band gothique ou un peu symphonique aussi par bout. C'est un band qui a été formé en 97, fait que ça fait quand même longtemps. Et,
87?
97.
OK.
Fait que, c'est un vieux band, puis j'ai vraiment aimé cet album-là. Fait que si vous avez aimé la pièce, j'ai trouvé bien représentative de l'album. Fait que... Écoutez ça, ils ont fait aussi plusieurs pièces pour des intros d'animés que okay. Je n'ai pas vu, mais ouais. Ils sont reconnus pour ça aussi.
Ouais, c'était pas mal bon.
À l'époque, il y avait un groupe Animetal qui faisait tout des covers d'animes japonais. Là. C'était incroyable. Ils sortaient des compilations avec 50 tunes. T'es rendu à 48 compilations, je crois. Ça en faisait du comique que j'ai pas vu dans ma vie.
Ils reprennent tout, tu sais, de Hello Kitty à aller jusqu'au plus violent.
Rémi sans famille.
Ah, ça, c'était triste.
Le pauvre petit Rémi. Mais il marchait toujours avec... T'es tout le temps tout seul, mais il marchait tout le temps avec de l'entrain. Quand tu le regardais marcher, là, tu sais, les bras envoyés, écartés, les jambes, les genoux hauts, la tête haute, jamais down. Il traînait une harpe en plus, ça devait être pour ça, tu sais, il tirait vers l'arrière finalement.
Mm-hmm. Je me souviens plus de la harpe.
Non, tu sais, Vitaly, tu sais, il fait 6 pieds 5, 300 livres, puis lui, il traîne le pipeau. Puis t'as petit Rémi à côté qui fait traîner la harpe.
Il fait bien triste. Rien à voir avec la mort de ses parents, il est condamné à traîner une harpe.
Ses parents n'étaient pas morts, son père était inconnu, puis sa mère elle l'avait perdu parce que dans ce temps-là, c'était facile de perdre des enfants. Il s'est retrouvé dans une ferme, puis il a été échangé contre deux bouteilles de Jack. Ben, c'était pas du Jack, là, mais c'était de l'alcool. Là. À un saltimbanque. Tu sais, le gars, il a besoin d'argent pour aller faire l'épicerie, je veux de la bière, un saltimbanque, qu'un pogne mon kid. Je veux dire, il a excroqué un peu en plus le saltimbanque.
Les tragédies de l'époque.
Non, ça joue en revenant de l'école, tu sais.
Tu sais, les Japonais, ils ont fait Rémi, je sais pas à quel point, tu sais, l'exactitude de l'époque. Tu sais, comme les cités d'or, tu sais, c'était japonais, mais tu sais, c'était bien fait. Mais,
en fait, il y a beaucoup de dessins animés de cette époque-là. Les cités d'or en font partie. Je pense que Rémi, sans famille aussi, c'est des coproductions franco-japonaises, en fait. C'est que... Il faisait comme une commande d'un scénario, si tu veux, au Japon. Puis au Japon, faisait les dessins animés, puis il renvoyait ça ici. Parce qu'en France, dans ces années-là, il y avait énormément de mangas qui marchaient, d'animés qui marchaient là, à TV, beaucoup plus qu'ici. Fait que...
Ouais, ben si, ça, c'est avec Goldorak, Albator, Sablotin, c'est comme les ancêtres des mangas. Là.
Ouais, nous autres, on a eu le petit castor qui a pas sorti en France du tout.
Mmh. Il y a juste ici que ça pognait dans le monde à part au Japon. Là.
Mmh. Trop violent. Ben,
c'est-tu le joueur du grenier qui avait fait une critique du petit castor?
Ouais. Vous irez voir ça sur YouTube, le joueur du grenier, petit castor, c'est très drôle, vu l'œil de français là-dessus, que moi j'ai vu ça toute mon enfance, je suis pas impressionné, là. Mais quelqu'un qui arrive, qui voit ça, il fait comme, ouais, il y a des petites connotations ici et là, on n'est pas sûr.
Ouais, non, c'est louche.
Bumbo aussi, il faudrait retourner voir ça.
Bumbo, je sais pas s'il en fait partie, ça, Bumbo, c'est un genre de comique belge.
Aucune idée. Ne parlez pas de Bumbo, s'il vous plaît, je vais l'avoir dans la tête.
Ouais, je l'ai déjà dans la tête. C'est notre tune par rapport à nous à la fin de l'émission.
Avez-vous déjà vu la fin de Bumbo?
Ben, il retrouve sa mère et son père, sûrement.
Mm-hmm.
Je pense pas l'avoir vu.
Parce qu'il y a une fin, hein, il avait pas envie de faire une deuxième saison. Ouais.
Ok, ah ben, il y a une saison, c'est combien d'épisodes, Bumbo? Ils ont étiré ça combien de temps?
Je sais pas, hey, là, je suis pas un pro de Bumbo, là. Mais j'imagine, il y a eu une saison, mais c'était des petits épisodes, là. Je pense que c'était des petits épisodes de 2-3 minutes. Là.
C'était trop long déjà. Ça fait passer des intermèdes avec les barbatrucs, puis tout ce genre de shit-là. Là. Le bonhomme craie, là, qui chiolait tout le temps. Là.
Ouais, barbatruc.
Les mordilots.
Hein?
Les mordillots?
Oui. Ça, il y avait des BD aussi, ça, j'aimais bien ça.
Ouais. Il y avait des casse-têtes, il y avait toutes des mordillots. Mm. Le monde in à l'époque avait des chandails, des mordillots, même des jackets.
Ouais.
C'était cool.
Avec tes bas mauves, là, par là, c'était jogging turquoise, là, tu torchais.
Ah, la belle époque.
Mais les mordillots n'ont pas passé à travers le temps comme d'autres super-héros ou. T'sais, imagine-toi, tu sais, Marvel a acheté les mordillots, puis là, on est rendu au 7e film des mordillots dans l'univers.
Mordillot Universe.
Quel serait le casting?
C'est bizarre, hein? Je vois Rémi Girard tout de suite. Un mordillot de plugger. Michel Charest.
Il faut mettre Guylaine Tremblay, on n'a pas le choix et tout.
Ouais. Fait que toi, dis, t'as été voir le dernier film de Spider-Man.
J'étais allé voir le dernier Spider-Man, oui. Puis c'est ça, je suis pas. Comment dire, je suis pas un fan de Spider-Man. Fait que j'étais juste curieux. J'ai vu les deux premiers avec Tobey Maguire. Le deuxième, je l'ai vu juste parce que je savais que Bruce Campbell faisait un caméo dedans, puis j'avais hâte de voir. Parce que j'aime le personnage de Bruce Campbell. Mais à part de ça, pour ceux qui savent pas qui est Bruce Campbell, c'est lui qui prend le billet de Spider-Man, de Peter Parker. Je pense au début du film, puis il refuse de rentrer. Là. C'est lui avec l'attitude de son personnage Ash dans Evil Dead. Fait que j'ai pas vu les Spider-Man avec celui qui en a, je pense qu'il en a fait deux dans le milieu. Puis là, il y a l'autre nouveau dont le nom m'échappe encore une fois parce que j'ai pas la mémoire des noms.
Tom Holland.
Fait que j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais c'était spécial de voir les autres Spider-Man. J'ai trouvé ça cool de voir le retour de d'autres acteurs aussi qui avaient fait d'autres vilains, là. Dont le gobelin, là. J'ai encore oublié son nom.
William Dafoe.
Ouais, William Dafoe. C'était le fun de le revoir dans un personnage de pas fin. Il est le fun, lui, en pas fin. Hein. Il est pas sain, lui.
Ah, il a une face de pas fin.
Mm-hmm.
On avait joué à Beyond Two Souls. C'est un des personnages du jeu. C'est clair que c'est un méchant. Il y en a beaucoup qui se demandent, on parlait de face de pas fin. Pourquoi il n'a pas interprété le Joker encore?
C'est vrai, hein? Il n'aurait pas besoin de tant de maquillage que ça.
C'est ça. Juste un peu de blanc, puis c'est réglé.
Il y a un beau grand sourire qui fitterait. On sait pas.
Peut-être. Peut-être avec cette nouvelle vague de Batman qui va arriver. Là.
Ouais. J'ai vu le preview justement en allant au cinéma.
Avec Something in the Way de Nirvana.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une petite reprise. C'est une fille qui chante. Ouais. Fait que bref, Spider-Man, si vous êtes un fan, je pense que vous allez triper. Moi qui est un peu qui commence à être blasé des super-héros, ben c'est ça. C'était un autre film de super-héros. Et je me suis pas emmerdé, mais je le réécouterai pas. Là.
Ouais, je trouve ça un peu. Le scénario me semble était léger quand même. C'est. Il se fuck dans son truc, fait que ben voilà, il faut réparer. Puis on va ramener les autres pour. Moi, quand je suis allé le voir, les gens ont applaudi dans la salle. Je trouve ça un peu bizarre. Là. Comme, oh yeah, c'est Tobey Maguire! T'sais, wouhou, on applaudit. Il t'entend pas? Je sais pas. Je trouvais ça un peu spécial. Ouais,
mais... Non, il y avait beaucoup de fanservice dedans aussi. Là. Au début, j'étais content. J'étais comme, c'est lui, je le connais, c'est Daredevil. Parce que j'ai pris les séries de Marvel, fait que j'ai dit, c'est cool de voir Daredevil là, mais c'est ça, c'est tout du fanservice. Là.
Ouais. C'était un peu léger comme trame de fond du film, disons-le.
Mm-hmm.
Ben, t'sais, pourquoi ils mettent ça compliqué vu que c'est au total, c'est à la fin, c'est toutes les histoires, une entre autres, là, qui vont faire que ça va être plus compliqué comme histoire. C'est pas un film à la fois. Là.
Ouais. Mais celui-là, je trouve qu'il apportait pas grand-chose à justement à l'univers Marvel.
Ben, ça apporte qu'à la fin, puis personne ne se souvient. Voilà, non, je ne cacherai pas à la fin. Spoiler alert!
Spoiler!
Mais ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, ça donne plus rien.
Ouais, donc, ça. Voilà. Personne ne se souvient de Spider-Man.
Peut-être.
Nombreux reboot. J'ai entendu ça entre les branches, moi et tout, de mon bord. Là. Ma blonde est allée voir justement la Lutine A avec d'autres personnes et. Dranchis, on te le compte tellement pas. Dire, j'irai pas voir le film, va le voir, mais qui passe à Ciné Cadeau. Puis, va être content.
Ciné Cadeau.
Ah, moi, je m'en vais voir Uncharted la semaine prochaine. Fait que je vais vous en parler, là, vu que je suis un fan de jeux vidéo, j'adore la série Uncharted. Oh, que je m'en vais là avec. Juste Sullivan, si ça marche, en Mark Wahlberg, ça marche pas.
Mais moi, je pense que t'es plus un fan de Tom Holland, quand même deux films d'affilée, back-à-back de Tom, que tu t'en vas voir.
Ben, c'est ça, tu sais, fait que, ouais, je vais voir deux fois Tom faire le cabochon. Fait que. Ok, c'est ça. Je pars pas
là. Ouais, moi et tout, je suis pas convaincu pour Uncharted, le casting. Moi, en partant, c'est pas que j'aime pas Tom Holland, mais il me semble qu'il fit pas tant que ça non plus.
Ben, il fit pas mal plus en Drake que Mark Wahlberg en Sullivan, là.
Ouais.
Oui, ça oui.
Ben, Mark Wahlberg devait faire ça, il devait faire Drake, mais ça a tellement été long. Ben, quand ils ont commencé à penser le film, Wahlberg faisait Drake, mais c'est ça, ça l'a trop étiré, puis là, il trouvait qu'il était rendu comme trop vieux. Pourtant, je sais pas, là. Il est pas si vieux.
Non, mais il est pas assez vieux pour lui, hein.
Si elle fait le frère de Drake dedans, j'espère que c'est Luke Perry qui le fait.
Il est pas mort, lui.
Ah oui, il est mort. Non, c'est-tu, ouais, il est mort, Luke Perry?
Mais je pense que oui.
Ouais, il pourra pas. Ah, mais ils ont réussi à faire des films de. Non, ils ont réussi à faire des films de Star Wars avec du monde mort, là. Ils vont être capables de faire Luke Perry d'un caméo, là.
Ça vaut-tu vraiment la peine de ramener Luke Perry, par contre? Ça coûte quand même des sous.
Non, mais il n'y a personne qui look comme lui.
Ouais, tous les fans de Beverly Hills vont suivre.
Hey, mais on parlait de fans. Est-ce qu'on continue en musique?
Ben oui.
Ben oui.
Est-ce que je vous ai déjà parlé d'un petit groupe que j'aime bien qui s'appelle Amon Amarth?
Quand même.
Les Vikings vont tasser les petites stepettes japonaises, check ben et ça.
C'est ça. Wata! Ben, en effet, un de mes groupes préférés, sinon mon groupe préféré ces temps-ci, Amon Amarth, ont sorti un nouveau single. Et je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour revisiter leur discographie? On l'a fait pour Hypocrisy, on l'a fait aussi pour Sirenia. Six pièces d'Amon Amarth qui vont essayer de refléter un peu leur discographie depuis 1988 que le band a commencé quand même. Mais ils ont commencé comme... ils étaient alors Scum. Mais c'était uniquement le guitariste fondateur Olavi Mikkonen qui était dans Scum. Finalement, ils ont pas eu de succès, fait qu'ils ont tassé tout le monde. Et c'est là que s'est joint à lui en 1992... Johan Hegg, qui est arrivé en 92 avec Ted Lundstrom, et c'est les trois membres qui sont toujours dans le band à ce jour. Ils ont fondé Amon Amarth donc en 92. Et Amon Amarth, pour ceux qui se demandent, c'est en Sindarin. C'est la langue fictive qui a été inventée par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est en fait le nom Sindarois de, de Mount Doom. Donc en français, je ne sais pas c'est quoi, Mount Doom.
Montagne la destinée.
Ouais, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Fait que voilà, dans le langage original, c'est Amon Amarth. Mais voilà, pourtant, le band n'a pas fait beaucoup de pièces inspirées de Tolkien. Leur nom est inspiré de Tolkien, mais ils sont vite tombés dans la mythologie viking, comme on le sait bien. Hegg est d'ailleurs assez calé dans la matière. Là, dans un documentaire, on le voit qu'il est entouré de livres de références là-dessus. Puis il fait vraiment. Il fait attention pour dire les vraies histoires, dans le fond.
Ben, lui, dans le fond, on sait que Peter Takren, d'Hypocrisie, est un maire d'un village. Lui, il est vraiment un chef de village, à quelque part, ou chef de ville, notre ami Hegg.
Ça fort probablement. En tout cas, il a le profil de l'emploi, c'est sûr.
Toujours sa hache à son bureau.
Sa hache, sa main droite, sa corne dans sa main gauche, toujours prête à, prête à être déployée.
Boire le sang des dignitaires étrangers.
Prends pas de chance. Fait que, dans le fond, à la marque, ça, ils ont vivoté avec des démos de 92 à 98, où ils ont finalement été signés par Metal Blade. Puis les trois premiers albums qu'ils ont fait, donc en 98, One Cent from the Golden Hall, en 99, The Avenger, et en 2001, The Crusher, c'est quand même des albums musicalement intéressants. Par contre, la production était vraiment pas le fun sur les albums. C'est étrange. Pourtant, je pense que Peter Tankren en a produit un de ceux-là. Mais bon, c'était pas super génial à l'époque. Mais je vous ai quand même mis la pièce Victorious March, qui est un de leurs vieux succès sur l'album One Cent from the Golden Hall. Et ensuite, tout a changé pour Amon Amarth avec l'album Versus the World. Quand on écoute un documentaire, le band raconte que c'était quasiment un album d'adieu. Ils l'ont quasiment écrit dans cette optique-là parce qu'ils se disaient Versus the World, ça passe ou ça casse. Il y avait encore deux jobs à cette époque-là. Fait que, ils ont vraiment commencé pas très dans les richesses. Fait que, ben, finalement, l'histoire fait que Versus the World, ça l'a passé. Alors, ça l'a lancé leur carrière un peu plus de façon intense. La production est beaucoup meilleure sur cet album-là. Alors, je vous ai fait jouer la pièce Thousand Years of Oppression de l'album de 2002 de Versus the World. Mais tout d'abord, Victorious March, le classique de 98, au lutin de l'enfer.
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
On vient d'entendre de l'album Twilight of the Thunder God de 2008 l'excellente pièce Free Will Sacrifice. C'est une des pièces C'est un album qui a vraiment beaucoup de pièces connues dessus. Et Free Will Sacrifice est probablement l'underrated parmi toutes celles-là. Super bonne pièce.
Je te sens quasiment émotif dans la voix là, pendant que t'en parles.
Là. Ah ouais. J'adore Free Will Sacrifice. Le petit interlude là, est écœurant. C'est simple. Tu sais, c'est de la musique qui est vraiment simple, mais je trouve que l'arrangement puis juste la séquence est super bonne, fait que j'adore Free Will Sacrifice.
Il y a une bonne riff de vent, je trouve, en plus, dans cette tune-là. T'as du vent fort, là. Ah, il me semble que ça fit, là, du vent avec cette tune-là.
Ouais. Fait que c'est ça, ils ont fait l'album Twilight of the Thunder God. Juste avant, ils ont fait l'album With Odin on Our Side. Et juste avant, Fate of the Norms en 2004. Fate of the Norms est généralement moins bien coté que Versus the World, mais moi, je l'ai bien aimé. Il y a la fameuse pièce Pursuit of Viking dessus qui est excellente. Mm-hmm. With Odin from Our Side, c'est généralement un album aussi qui est bien coté. Ils ont vraiment découvert avec cet album-là leur espèce de mélodie qui est maintenant un classique. Et Twilight of the Thunder God, je trouve qu'ils ont été une petite coche de plus. Quant à moi, beaucoup de bonnes pièces là-dessus. Après ça, ils ont fait l'album Surtur Rising en 2011 et l'album 2013 Deceiver of the Gods. Un petit peu moins bon, je trouve, Surtur Rising, Deceiver of the Gods, même si ça reste du super bon à mon amarte, mais ce qu'on reproche souvent, c'est que c'est un peu la même chose, mais quand t'as quelque chose qui marche bien, pourquoi faire autre chose?
Ben, dans le fond, ça permet, toi qui aimais genre les premiers albums, de rester accroché, puis quand des nouveaux fans découvrent, ben vu qu'ils n'ont jamais changé de formule, puis c'est une formule super catchy, ben ils vont aimer ça, puis tu sais, pour 4-5 albums, puis ainsi de suite.
Exact. Fait que la prochaine pièce, je vous ai mis Deceiver of the Gods, pas la pièce de l'album, la pièce We Shall Destroy. J'ai essayé d'aller en chercher une qui est un peu moins connue, mais super bonne celle-là aussi. Donc, We Shall Destroy de Deceiver of the Gods. Et ensuite, en 2016, ils ont sorti l'album Jomsviking. Je trouve que c'est peut-être un nouveau tournant que le band a pris dans un peu plus... ils sont allés un peu moins dans le death intense. Ils ont essayé même des petites choses où est-ce qu'ils chantent clean avec une chanteuse invitée, mais tu sais, la base reste la même, veux pas, là, dans Jomsviking et aussi dans Berserker, l'album de 2019 qui a suivi. Donc, de Jomsviking, je vous ai mis la pièce First Kill, qui est la première de l'album, qui commence vraiment très très bien l'album. C'est une super bonne pièce avec la petite riff de bass qui commence, puis Johan qui nous dit. Qui nous raconte l'histoire du premier homme qui a tué. Je
pensais que Johan disait là, vous écoutez ça au lutin de l'enfer.
Pas capable.
Lutin!
Oh, j'ai pas la grippe. Non, moi non plus, je suis pas capable. Shame!
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
Et c'est le tout nouveau single Put Your Back Into the Ore qui vient tout juste de sortir la semaine passée, je crois, qui conclut cette petite révision de la discographie d'Amon Amarth. C'est difficile de choisir des pièces d'Amon Amarth. C'est comme être dans un magasin de jujubes. Quel jujube je vais prendre? C'est pas facile à choisir, mais bon. Put Your Back Into the Ore, qui semble être dans la continuité un peu de ce qu'ils ont fait avec Jomsviking Berserker. Puis je suis persuadé qu'ils ont fait cette pièce-là pour que les gens rament dans le show. Là. Ça semble inévitable. Il y a même la petite interlude. Fait que je sais pas s'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont allés dans des shows, mais je sais pas si ça fait longtemps que les gens rament. Avez-vous déjà vu ça?
Moi, quand on les a vus, c'est la première fois que je voyais du monde s'asseoir à terre et ramer tout le monde ensemble pour une toune, ouais.
Moi, j'avais vu ça... Dans un heavy, je pense que c'était avec Hailstorm. Hailstorm, il a la pièce Nancy de Tavern Wench, là, qui est un peu un genre de... Pas de slow, mais pas vraiment. Il est un peu une pièce... Là, le monde était assis, puis ils se mettent à ramer. Je sais pas si ça vient d'eux, là. Mais en tout cas, Amon Amarth, qui est un band live, il faut dire. C'est quelque chose qui les a démarqués dès leur début. Il y avait des... Ils ont amené des bateaux quasiment au complet sur scène. Ils ont toujours des scènes assez spectaculaires. Fait qu'on dirait qu'ils veulent... ils ont composé une pièce juste pour que les gens puissent ramer, ce qui est une belle attention.
Amon Amart devrait s'associer avec le théâtre de la Dame de Cœur pour faire des spectacles.
Oh, c'est débile. Des grosses marionnettes.
Ouais, c'est ouais. Ça, ces grosses marionnettes.
Non, il te ferait une histoire épique avec ton siège chauffant.
Je suis déjà allé quand j'étais très, très kid pour me rappeler de rien. C'est que, bref, on peut dire que je suis jamais allé. Toi, je sais que t'es un habitué, un abonné.
En fait, oui. Quand j'étais kid, j'ai été chanceux dans ma vie. J'ai gagné souvent des billets pour y aller. Puis on était retourné rendu adulte juste pour le fun à un moment donné de voir qu'est-ce que c'était devenu. Puis c'était quand même belle. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, là. C'est différent de ce que tu vois ailleurs. Là. C'est des grosses marionnettes et puis.
C'est pas comme Spider-Man, hein? Ça fait différent, justement.
Des grosses marionnettes qui se tapent dessus avec des haches puis qui coupent des têtes, ça serait divertissant.
Ah ouais, avec du sang qui revole dans le public à la gloire, là. Siège chauffant.
C'est pas eux qui avaient les bretelles chauffantes. Ouais, c'est ça. Un point de spectacle, ta bretelle chauffante explose, puis va, ça te gicle d'en face.
En parlant de genre d'événement loufoque, tout le monde connaît le concours d'Eurovision?
Ben oui, c'est pas Abba qui a gagné un jour.
Il y a bien du monde qui ont gagné, mais oui, Abba ont probablement gagné. Il y a un groupe allemand que j'aime beaucoup qui ont été, dans le fond, assez passés les épreuves de qualification pour représenter l'Allemagne. Ils ont malheureusement pas été retenus. C'est Eskimo Callboy.
Ah, oh, ouais.
Ouais, dans le fond, leur site internet, dans le fond, la fanpage, les fans ont commencé à faire un mouvement de go. C'est Eskimo Callboy pour nous représenter. C'est que finalement, ils ont embarqué dans l'aventure, mais non, ils n'ont pas été retenus.
Ah.
Dommage.
Déjà trop populaire, probablement.
Peut-être. Ben, Lucky, ils ont déjà gagné. Ils représentaient la Finlande. Là. On parlait de Gore, ben, c'est un autre groupe avec des monstres là, sur stage. Ils ont gagné l'Eurovision et pourtant, ils étaient quand même connus dans leur taverne en Finlande.
Ouais, je sais pas, c'est des bandes déguisées, c'est ça.
Mm-hmm.
L'ordi. Je me souviens pas que c'était très bon, en tout cas.
Le lutin Guilly aime ça.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je connais quelqu'un qui est très fort en lutte, qui connaît ça, je l'écœurerais pas. D'un plan que je reçoive un scénario chez nous, puis qu'il faut que je meure finalement.
Ah, la lutte. J'en écoutais avec le lutin Y dernièrement de la lutte.
Ah ouais? Des nouvelles émissions?
Ben non, mais ça passait. Ouais, c'était juste de même quand la TV l'émission a switché, c'était ça qui jouait, là. Il était déçu parce que je connaissais un des deux gars en bobette dans le ring, là. Pas personnellement, là, on va dire, mais je savais c'était qui.
C'était qui?
AJ Styles.
Oh!
Je voyais tout le néant dans les yeux à dit.
Ah, moi puis la lutte, on est très, très...
Si t'as les yeux... Si t'as les yeux petits de même, là, c'est à cause de tout. Quand ils suivent le chest, les lutteurs, le reflet, les projecteurs, ça t'aveugle.
Mm-hmm.
C'est pour ça que t'aimes pas trop la lutte.
En parlant de lutte, je sais pas si vous avez écouté le Super Bowl.
Non.
Non.
Savez-vous qui a fait l'introduction du Super Bowl?
L'intro, ben, non.
Il y a eu un speech du Rock pour commencer le Super Bowl, c'était malade.
Ah ouais.
Il venait faire la promotion de Jungle Cruise.
Ouais, non, je sais pas pourquoi. Il a juste fait... il a fait son célèbre « Finally, The Rock ». Non, il a-tu dit « The Rock » Parce qu'il n'a pas fait If You Smell, fait que ce qui me fait dire qu'il n'a probablement pas les droits. The Rock n'a probablement pas les droits de la catchphrase du Rock.
C'est ça, je m'en allais demander. Y a-tu demandé de tourner le ballon de côté et de le shiner ben comme faux?
Non, il est resté poli.
Non.
C'était un joli clin d'œil.
Ben, il est rendu Disney à cette heure, fait qu'il faut qu'il reste poli.
Ouais, pas le choix. On parlait de performance aussi tantôt. Le show de la mi-temps, c'était comme un clin d'œil au gros rap des années 90 là, avec Dr. Dre.
Ok, je pensais. Ils en ont descendu 6 sur le stage.
Mais tu sais, à un certain point dans les pièces, il y avait comme. On voyait des gens avec un trombone. Mais tu sais, t'écoutais la track, puis il n'y avait pas d'instrument avant. Là. C'est, du rap, c'est assez basic. Là. T'as un accord, puis c'est tout. Là. Ben, je comprends pas pourquoi ils ont senti le besoin d'avoir des instruments déplogués sur le terrain.
C'est shiny, tu sais. C'est pour la même raison qu'à Top of the Pop, ils ont tous des instruments, puis ils font tout semblant de jouer là. Ça meuble.
Ça meuble.
Même Viator Coron faisait semblant. Là. Il faisait du lip-sync, c'est tout.
Mm-hmm.
Qui ça?
Viator Coron. Ici Country, l'émission au canal communautaire. T'as jamais vu ça?
Ouf, je suis pas sûr.
Ouais, puis il se trompait dans son lip-sync.
C'est ça, c'était ses tunes, puis il se fourrait dedans. Alors, c'était beau.
Mais c'était bizarre. Parce que même les rappeurs, tu sais, comme Snoop Dogg, des fois, on dirait qu'il faisait du lip-sync, mais pourquoi, tu sais?
Ben, au cas où que ça aille pas bien.
Ouais, ça, ils ont pas droit à l'erreur, puis avec Snoop Dogg, c'est clair que ça peut déraper, là.
Tu sais, c'est l'émission la plus écoutée, je pense, aux States, tu sais, de toute l'année. Fait qu'ils s'arrangent pour pas que ça chie, là. C'est tout à fait normal, je pense.
Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont jamais de groupe de rock ou de métal.
Ben, je sais pas, c'est plus violent dans un show des pop que de métal, là. Dans un show métal, c'est consensuel.
Ils ont pas eu Iron Maiden, à un moment donné?
Parce que ça, c'est consensuel, hein, que le monde se rentre dedans d'un pit, tandis que dans les pop, ça se tire dessus, veut dire, d'un fil d'attente, ça, c'est moins...
C'est pas consensuel qu'ils se tirent dessus, peut-être. Ben, peut-être leur façon de slammer.
Peut-être les balles perdues aussi qui font que... Ben, ça fait partie des risques du métier.
Rammstein d'un show de la mi-temps.
Rammstein à mi-temps, ça pourrait être cool. Ils vont le faire au soccer avant le football. Là.
Ouais.
Il n'y a pas de show de la mi-temps au soccer.
Ben, il y a sûrement des shows de mi-temps au soccer. Là.
Rammstein va en faire une. La mi-temps va arriver, tu vas voir le terrain s'ouvrir. Les joueurs catapultés. Rammstein vont venir faire une mi-temps, c'était pas prévu.
Le terrain va être cramé au grand complet. Fuck la deuxième demi. Le score final, 0-0.
Ils font le show d'ouverture de game, au pire.
Ouais, show d'ouverture. Ils mettraient sûrement des feux d'artifice dans les poteaux du but, tu sais.
Mm-hmm. En tout cas, il y en aurait long à couvrir.
C'est clair. Till serait capable.
Till, c'est un vrai. Hey, j'ai pogné un article, les gars, sur Radio-Canada qui parlait d'un groupe québécois. Ils ont sorti de quoi pour leurs 40 ans cette année? Et on parle de Voivode.
Ouais, 40 ans.
Ouais, 40, c'est quand même fou. Il explique un peu d'où ce que le Ben était parti. T'sais, dans le fond, Voivode, c'est un groupe mythique là, au Québec. Puis en tant que lutin qui prêche ailleurs que dans sa paroisse, je connais pas Voivode. Malheureusement, mais ils ont sorti de quoi de nouveau? Je vais écouter leur album. C'est leur 15e album quand même. Il s'appelle Synchro Anarchy. J'ai appris une anecdote que, bon, il y en a sûrement tout plein qui le savaient, mais quand ils ont fait leurs premiers albums, des covers, un magazine allemand en avait parlé. Il disait qu'ils étaient dans la même catégorie que des groupes à la Venom et des Slayer. Fait que ouais. Ça a été la seule fois de leur carrière. Ouais, après ça, ils ont évolué un peu. Puis, je savais pas qu'ils étaient allés où ils auraient pu gagner. C'est la disque. C'est l'année que, en 90. Et ça, dans le fond, le groupe a été nommé dans la catégorie artiste anglophone de l'année à la disque, mais c'est Céline Dion qui l'avait gagné l'année qu'elle est allée refuser son trophée.
Ah ouais.
Et ensuite, ça a pas bien été pour Voivode. Ça les a nuit, dans le fond, là, que ce truc-là. Puis, il parlait, Michel Langevin, celui, un des membres fondateurs qui reste, lui, dans ses craintes, c'est que Voivode, ça ne jamais, tu sais, passe pas à l'histoire, vous ne serez pas reconnu si qu'on finisse par les oublier. Parce qu'il aurait dû avoir la reconnaissance. Dire, ils ont influencé énormément de ouais. styles musicaux. Juste dans la pièce que moi j'ai choisie, j'ai l'impression d'entendre des rythmiques de Ghost un peu dans la façon, les montées vocales, des trucs de même. Puis le bout de prog vers la fin de la toune, super bon aussi. Fait que, non, j'ai bien aimé Synchro Anarchy de Voivode.
C'est drôle, tu dis ça. J'avais exactement, c'est exactement ce band-là que j'ai pensé quand j'écoutais la tune. Ouais, Ghost ont-tu sorti quelque chose, mais.
Sinon, ça, Voivode Cases de 81, puis un autre vieux groupe, ben, pas un vieux groupe, un vieil humain. Sakis Stolis, qui était le leader de Rotten Christ, c'est un groupe fondé en 87. Il a décidé de faire un projet solo qui s'appelle, par son petit nom, hein, Sakis Stolis. Il a pris le concept de Joachim Kanz. On espère que lui, au moins, il va continuer. Il doit signer sa même étiquette de disque, j'ai pas remarqué. Mais il a sorti un seul single pour l'instant, Among the Fires of Hell. Et j'ai bien aimé la toune. Je trouve une ambiance super le fun. Je pense que sûrement que le Lutin 10, ça y a plu.
Oui. Ça a été la pièce que j'ai aimé le plus du bloc. Là. C'est tombé direct dans mes cordes, un genre d'ambiant ténébreux. Puis j'aimais son vocal dans Rotten Christ. Fait que j'aime encore son vocal là. Fait que, non, c'était très bon. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. S'il fait un album un jour. Qu'est-ce que ça va avoir là?
On va peut-être arrêter au solo, au single.
Ouais.
Fait qu'on va l'écouter ça. Oh. De l'enfer!
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
Et nous venons d'entendre la pièce Night Rage qui vient de sortir leur 9e album, l'album Abyss Rising. On vient d'entendre la pièce Shadows Embrace Me. Le groupe existe depuis l'an 2000. C'est un groupe de Grèce et c'est présentement mon numéro 1 de l'année. J'ai vraiment été surpris de l'album. Je savais pas qu'il sortait de quoi. Puis moi, mes deux albums préférés, c'est Sweet Vengeance en 2003 puis Wearing a Martyr's Crown en 2009. Ça faisait donc longtemps qu'il n'avait pas fait de quoi qui m'avait captivé autant. Ils n'ont rien inventé. C'est du death metal suédois à la sauce grecque tzatziki. Mais je trouve ça très efficace puis j'ai vraiment aimé l'album du début à la fin. J'ai de la misère à choisir la toune, la pièce pour le bloc.
Ça faisait-tu un petit bout qu'il n'avait rien sorti, eux autres, Night Rage, me semble?
2017, le dernier album.
Non, j'ai vraiment aimé la pièce.
J'en voyais en 2019,
en 2019. Oui, c'était un autre truc que 2017. Wolf. Ouais. Mais c'était pas un album qui. Il était bien, là, mais. Ils sont quand même sur la pente remontante. Ils ont eu une petite creux de vague, là. Faudrait que j'aille checker. Je sais plus exactement.
Un creux de vague.
Ouais, mais ils ont quand même eu des gros changements de line-up, souvent dans le groupe. Là. Le groupe est quand même rendu stable depuis. Pas tant de temps depuis que Dino Stamoglou est rentré au drum, puis Francisco, le bassiste. Mais ça, après Wearing a Martyr's Crown, là, Insidious, The Purian, Venomous, c'était relativement moyen comme album. Là. Ben pour moi, là, il y en a qui sont bien cotés pareil, mais moi, j'avais trouvé que c'était moins intéressant. Le premier chanteur qu'ils ont eu, c'était Thomas Lindberg, ex At the Gates.
C'est vrai, c'est vrai. Il a fait un ou deux albums?
Deux albums, puis après ça, il se disait que ça... Ben, la compagnie disque a décidé de... Il y avait eu un fuck avec la compagnie disque, puis il s'était dit, si lui, il est plus là, anyway, le band va crever, puis finalement, ça a continué. Je pense que quand il avait quitté le band, la compagnie disque a rompu le contrat avec Night Rage, parce qu'il fallait que le groupe reste complet ou quand même, puis finalement, regarde, Night Rage se sont relevés, ils existent encore aujourd'hui.
Ajouter ça à la liste d'écoute sortie le 18 février. T'en as une chance.
Ah oh, oui.
De quoi d'autre et tout qui est sorti récemment, qu'on a mis à l'émission, plein de trucs de 2022 aujourd'hui. Amorphis, C'est le premier band à avoir été ajouté sur Metal Archive. J'ai vu ça.
Ah ouais?
Je trouvais que c'était OK. Ça fait très longtemps qu'il existe Amorphis. Ils viennent de sortir l'album Halo. Pas en l'honneur du jeu, j'imagine. J'ai choisi la pièce Windmane. On s'en était parlé un petit peu au début. Au début, je trouvais que c'est ça. Amorphis a une recette, puis je trouvais qu'il était sur la recette, puis sans plus. Après quelques écoutes, je trouve qu'il y a des pièces quand même très très bonnes sur l'album. Mais c'est pas. Ça sera pas le meilleur d'Amorphis, mais ça reste un très très bon album à écouter.
Moi, dans le fond, le solo clavier qu'il y avait eu vers la fin d'Amorphis, ça me faisait penser beaucoup à Alternatives of Sorrow comme style de clavier. Là,
mm-hmm. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'en ai mis à la toute fin.
Spoiler! Les lutins spoilent tout à soir. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai resté quand j'ai vu après ça que t'as mis Alternatives. Ah, ben oui, en effet, hein, c'est, ça va ensemble.
Moi, bon, je cherchais quelque chose qui fitait dans le mood, fait que j'ai bien aimé l'album. Je préfère Queen of Time, l'autre qui ont sorti avant, et c'est sur la grosse coche, fait que c'est, je pense que c'était difficile d'accoter ça. Mais encore un très bon album pour un band qui roule depuis très longtemps. Puis ils ont repris leur vieux bassiste.
Ah ben ouais, ben Under the Red Cloud aussi, l'album de 2015 était quand même très très bon.
Je ne l'ai pas écouté, lui, je l'ai sauté. Il me reste comme 2-3 albums que j'ai pas écoutés d'Amorphis.
Ouais, celui-là, il était super bon. On les avait vus en spectacle aussi, il me semble. Avec vous, je pense, Amorphis.
Oui. Oui, ils finissaient la soirée, on les avait pas taffés jusqu'à la fin.
Ouais, c'est ça, leur prestation était moyenne, tristement.
Ben moi, je les avais vus au Fouf dans le passé avec Dee, puis j'avais aimé mieux leur prestation au Fouf que celle qu'ils ont donnée au Col du Théâtre Corona.
En fait, moi, je les avais découverts justement au Fouf. On était allé voir Samael qui est en première partie. Puis j'avais des amis qui eux autres tripaient sur Amorphis. Fait qu'on a fait, on va checker Amorphis, voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis moi, j'avais entendu ce qu'ils avaient fait avec leur ancien chanteur qui est rendu dans Yatara maintenant. Puis c'est ça, j'accrochais un peu moins. Je me disais, ça sera pas super intéressant. Puis finalement, ils m'avaient jeté à terre. C'était vraiment bon. Là. Le show était super, super... entraînant, puis ça a été une belle découverte.
Ben, c'est une belle salle, les Fouf, je trouve, pour que des shows intimistes, là.
Mm-hmm.
Intime, pas le choix.
Ouais.
Ah, puis on va poursuivre avec Baron Hurt. Ils ont un bassiste en commun maintenant, à Amorphis, c'est Baron Hurt. J'en ai mis du Baron Hurt à la toute première émission du Lutin de l'Enfer. Je n'en avais pas remis depuis. C'est un band que j'ai apprécié beaucoup, beaucoup les deux premiers albums. Là, je peux pas dire lequel des deux sont meilleurs. J'ai décidé de mettre une pièce du deuxième album de 2012 de The Devil Resolve.
Le diable. Moi, j'ai bien aimé Baron Hurt. Je trouve que ça faisait très RPG boss battle comme tune, ambiance là.
Ouais, tu vas. On va proposer ça à Square pour leur prochain Final Fantasy. De mettre du Baron Hurt dedans.
Mm-hmm. Peut-être.
Ça pourrait être bon. Un boss battle contre Sephiroth.
On est de même avec les gars de Square Soft. Square, c'est que...
J'ai mis bien de l'argent dans Square, ils m'en doivent une. Okay, on va aller écouter la pièce Vintage Warlords. Tiens, c'est Vintage en plus.
Oh, Luther!
Pour entendre la musique, connectez-vous à Spotify ou rendez-vous sur notre site web leslutinsdelenfer.com.
Colin, Eternal Tears of Sorrow. L'album Before the Bleeding Sun, en avant du soleil qui saigne. La pièce Red Dawn is Rising, hein, ça fait avec le titre de l'album. Un très très bon album d'Eternal Tears. Si vous aimez les trucs un peu plus smooth, c'est très très bon.
Très belle pochette. Un corbeau qui te décoche une colombe en plein ciel.
Mm-hmm.
Est-ce que le band existe encore?
Oui, mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont rien sorti.
Cette pièce-là, c'est 2006, puis je voyais que leur dernier album date de 2013.
Ils ont sorti deux albums après celle-là. Mais tu sais, les gars sont occupés, hein? Ils ont Cabana à rénover, des trucs de même. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long avant de sortir un nouvel album. Un gros Cabana qu'ils font. Là.
Ouais. Ils veulent que ça résiste à l'hiver finlandais.
Ben, c'est le Cabana du Temple solaire.
Alors, des contracteurs fiables, c'est pas facile. Fait qu'il faut peut-être qu'ils surveillent ça un peu plus.
Ils font tout en bouteille de bière, leur Cabana.
Il faut qu'ils boivent leur Cabana.
Hey, j'ai écouté une série télé que j'ai fini.
Série télé?
Toi, ça?
Ouais, j'ai fini la saison 3 des Titans.
Ah, dis-moi-le pas. Je veux l'écouter. J'ai écouté un épisode.
Ah non, nous autres, on spoil, au lutin.
Ouais, on spoil, c'est que c'est à mon tour de spoiler. La saison 2 est la saison 2 est meilleure que la 3. La 3 est bonne, mais j'aime mieux la saison 2. Mais en partant, le méchant est plus intéressant.
OK. Ben, le méchant, c'est pas Deadshot?
Non, vraiment pas. C'est Deadstroke.
Deadstroke, ben, j'étais pas là. Ah non, Deadshot, c'est le Marvel.
Non, non, Deadshot, c'est Will Smith.
The Marvel. Ah non, c'est vrai, il est dans DC. Bon, je suis tout mêlé.
C'est pas grave. tu fais juste devancer ce que D allait dire.
C'est ça. J'ai volé le spot à D. J'étais en train d'écouter ta série Batwoman aussi que tu m'avais prêtée.
Oui, et puis?
Ouais, c'est amusant. J'avoue que j'ai un peu de difficulté avec ce format-là, tu sais, même de Flash. Tu sais, c'est quand même low budget, tu sais, c'est souvent les mêmes décors, c'est... Tu sais, fait que... Mais je trouve que l'intrigue est bonne, par contre, tu sais, au début, j'avais pas trop vu venir, puis là, tu sais, plus ça se développe, fait que, tu sais, il y a comme la main story qui reste toujours là, puis t'as des petites aventures. Non, c'est quand même intéressant, je suis accroché. Je suis rendu au disque 2, fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver.
Moi, j'ai hâte que la saison 2 finisse par sortir en DVD, ce qui n'est pas encore le cas. J'attends plusieurs séries. Là. Il y a Stargirl 2 que j'attends. Il y a ça, là, je me suis ramassé Superman et Lois.
Oh!
Ben, ce qui est bien de ce que j'ai vu à date de la série, dans le fond, parce que j'ai pas encore vu la série, mais j'ai vu des trucs, c'est là, comme je dis, moi, me faire spoiler, c'est le dernier de mes soucis. Puis c'est le fun parce que c'est pas un Superman qui apprend à je suis Superman, tu sais, non, je suis Clark, non, il est un Superman établi.
Bon. Voilà.
De gens partant, là, tu sais, à un moment donné, c'est un peu ce que moi je reproche à chaque fois qu'ils font un film de Batman.
Ouais.
Mais qui est Bruce Wayne? Puis là, on voit ses parents mourir. Fait que, tu sais, cette année-là, on le sait, passé où ce qui est rendu aujourd'hui, là, même si de nouvelles BD, on voit encore les parents de Bruce Wayne mourir, là, on peut pas s'en sortir, là, c'est inévitable. Si Batman est là, ses parents meurent.
Ça doit être les personnages qu'on a vu le plus de fois mourir à l'écran, je peux pas croire.
Ah, mais il dépasse le gars, là, Boromir, là, Sean Bean, je pense qu'il s'appelle. Là.
Ouais, mais Sean Bean, c'est l'acteur.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais en fait, de mort de personnages montrés de façon différente, je pense même qu'il n'y a pas assez de films religieux pour montrer la mort du Christ autant que la mort des parents de Bruce.
De
là, si tu rajoutes les jeux vidéo en plus...
ouais, c'est vrai.
Ben, même dans Batwoman, on les voit mourir. Même dans la série Batwoman, on voit les parents de Bruce mourir.
Non, on voit les parents de Batwoman. Ben, sa mère, du moins.
Parce qu'elles sont mortes à peu près de la même façon.
Ah non, non, t'as raison. Non, on voit le
collier, quand elle voit le collier dans le bureau, le collier de perles, on voit les parents de Bruce mourir. C'est que même quand que Bruce Wayne n'est pas impliqué, ses parents, ils crevent pareil.
Disons que le ratio mort versus dialogue n'est pas très à l'avantage de Thomas Wayne.
Ouais.
Parce qu'il joue jamais. Part... On voit des fois des flashbacks, mais il n'y a jamais un rôle important. Puis...
La seule phrase qu'il dit, c'est genre, elle doit être garée là-bas, là, puis après ça, il se fait tuer.
On va prendre un raccourci.
Bang! Bref.
Ouais, bien drôle. Fait que ça tire déjà à sa fin. On s'est rendu à la pièce. La pièce par rapport.
Ouais, mais là, c'est pas du métal, ça? c'est la toune par rapport.
Ben ouais. Moi, je suis resté surpris. En fait, tantôt, j'étais sûr que c'était le Lutinka qui avait choisi cette pièce-là.
Ben non.
Ah non, j'ai choisi Parasine Kevat la semaine, il y a deux semaines.
Oh oui, mais je joue pas, je vais pas allumer plus que ça, vu que t'es un fan de cette personne. Je savais pas que lui aussi était un fan.
C'est moi, je vous ai déjoué. Haha, c'est. C'est. Je vous ai mis une pièce de Laurence Nerbonne, notre artiste québécoise. En fait, je l'ai vue, j'ai pensé à elle parce que je me disais, bon, qu'est-ce que j'écoute quand j'écoute pas du métal? Bon, j'aime bien ce qui est lo-fi, un peu, tu sais, qui a une bonne production, des bons arrangements, des bonnes mélodies. Puis j'ai pensé à Laurence Nerbonne, qu'on a vu, à Tout le monde en parle, l'année passée. Et son album OMG, fait que je me suis dit, ah, je vais écouter l'album de Laurence Nerbonne. Puis j'ai quand même bien aimé les arrangements musicaux, mais je pense que je l'aimerais plus si je comprenais pas ce qu'elle chantait. T'sais, si mettons, elle chantait en finlandais ou quelque chose comme ça. Là. Parce que elle est beaucoup dans la... Parce que sur cet album-là, je sais pas si les autres, là, mais beaucoup dans la mouvance rap, puis... C'est peut-être des valeurs qui m'intéressent un peu moins, mais bon. Musicalement, je trouve ça super bon.
Le premier album, c'était sur le flirt et l'amour et des trucs de même, mais c'est la musique un ton plus pop scandinave. Puis elle a plus orienté. Elle a sorti l'album Feu en 2019, qui était son deuxième album. Elle est tombée justement plus rap. Moi, c'est mon album préféré, c'est Feu, parce qu'il y a comme le bon du premier album puis le bon du troisième réunis en un seul album. C'est que. Mais elle avait starté sa carrière dans Hôtel Morphée. Demain, elle s'est rendu compte que c'est plus payant à être seul qu'avoir ta paye à partager avec d'autres dudes. Elle a lancé sa carrière solo et j'aime beaucoup plus sa carrière solo que Hôtel Morphée. Hôtel Morphée, c'était un petit peu plus. Dans le style Adi, tu sais, c'était du doom dépressif. Là.
Bah ouais. Ah ouais. Moi, je me nourris de dépressif.
C'est supplément de dépression en rien gagnant.
Mais tu sais, je suis pas un grand fan de rap, mais tu sais, musicalement, ce qu'elle fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant que le rap. Tu sais, les arrangements, la production. Puis même, elle en parlait, tout le monde en parle, tu sais, qu'elle passe beaucoup de temps en studio, puis ça paraît, tu sais. Puis, fait que je trouve ça vraiment intéressant musicalement. Le thème, bon, c'est quelque chose qu'on peut faire abstraction, là, si. si on porte pas trop attention à ça. Fait que je vous ai mis la pièce Porto Rico. Puis elle racontait qu'elle avait fait ça pendant un peu la pandémie, puis c'était comme une espèce de. Elle s'imaginait pouvoir voyager à Porto Rico.
À part Ricky Martin, qu'est-ce qu'il y a à Porto Rico?
Je sais pas. S'il fait chaud.
Parce que c'est. Si Ricky Martin ne serait pas gay, peut-être qu'il serait avec Laurence Nerbonne. Peut-être son fantasme peut-être. Secret.
Qui sait? Faudrait les matcher.
Ouais, il va falloir qu'il veille de bord, par exemple, notre ami Ricky, là, mais Laurence, elle s'est peut-être lancé ça comme défi.
Je vais faire que Ricky Martin redevienne hétéro le temps d'une soirée.
Ben, Laurence, c'est quand même jolie. Elle devrait pouvoir.
Ouais, puis qu'est-ce qui se passe dans la toilette de la Barouche? Reste dans la toilette de la Barouche.
La Barouche, quand? Elle t'a sorti ça des boulamites, cette référence. All right, ben merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici.
Ouais, oubliez pas de nous liker, nous partager, mettre des posters avec notre effigie pour mettre sur les babillards de vos compagnies, vos jobs.
Écoutez-nous au travail.
Site internet facile à trouver.
Leslutinsdelenfer.com.
Demandez à Alexa, elle va vous le dire.
Oui, on est disponible sur Alexa.
Récupération du programme Les Lutins de l'Enfer.
Très cocasse. Fait que ben, ça messieurs, à la prochaine. Cheers!
Santé!
Tequila! Yeah.